la médecine moderne est quelque chose de formidable. Mais, en fait, il semble qu'il y ait un mais, et toute ma conférence va tenir dans ce mais. Ce mais est à l'origine de l'immense questionnement de l'éthique biomédicale qu'on peut résumer ainsi. La médecine moderne soigne-t-elle bien l'homme ? Alors, on peut entendre cette phrase de manière assez simple, en mettant l'accent sur le, mais, sur le bien. Est-ce que la médecine moderne soigne correctement l'homme ? Mais de façon plus profonde et plus angoissante, on peut aussi entendre, mettre l'accent sur l'homme. Est-ce bien l'homme, l'humain, mensch ? Je ne vais pas vous faire la honte d'être le politiquement correct qui féminise donc l'homme en tant qu'humain. Est-ce que c'est bien l'homme que la médecine moderne soigne ? C'est une question qui paraît incongrue dès lors qu'on exclut dans notre champ l'art vétérinaire, mais... pourtant, le travail philosophique ne doit pas rechigner à chercher dans les coins et pousser le sens des mots. Et ce faisant, il arrive qu'il lève un lièvre ou, si vous voulez, un paradoxe. Et l'objet de cette conférence, c'est justement de creuser ce paradoxe inscrit au cœur de la médecine moderne. Plus elle progresse dans l'art de soigner, plus croît à son égard l'insatisfaction, voire le ressentiment et peut-être même l'effroi. Donc quand je dis médecine, je me limiterai à celle que je connais et pratique, c'est-à-dire la médecine technoscientifique. Technoscientifique, c'est un mot très important, je vais devoir sans doute le présenter brièvement. Je dis tout de suite que j'exclus comme hors de mon champ la médecine ancienne. Alors la médecine qu'on dit maintenant hippocratique, pour moi c'est la médecine de Molière, donc vous voyez déjà ce que j'en pense. Et aussi les médecines traditionnelles ou extra-européennes que je ne connais ni ne pratique. Donc je n'en parlerai pas et je pense que c'est très très différent. Je vais parler de la technoscience, donc. C'est-à-dire un moyen technique fondé sur une connaissance scientifique. Et par connaissance scientifique, j'entends là aussi de façon assez réductrice la science qui est née en Occident vers le XVIIe siècle. La science fondée sur la mathématisation du monde et la vérification expérimentale, cette science qui prétend nous rendre comme maître et possesseur de la nature, selon le mot de Descartes. Et la nature, cette fille publique qu'il convient de mater, selon un mot apocryphe, d'ailleurs, qu'on ne trouve nulle part, de Bacon. Et quant au terme technique, il faut l'entendre au sens de Heidegger, c'est-à-dire une réquisition de la nature en vue de réaliser et de vérifier expérimentalement les intuitions scientifiques. Et grâce à un mouvement de va-et-vient entre la technique et la science, ce va-et-vient qui n'a plus rien à voir avec la techné antique, d'où relevait la médecine antique, qui était un art pratique qui fondait donc jadis la médecine. Donc cette science s'est d'abord illustrée dans le domaine de l'inanimé, la physique, avec par exemple le grand nom de Newton, la chimie, et là cocorico, on va parler de Lavoisier, on peut citer Lavoisier, avant de se pencher sur un objet peut-être plus difficile, plus complexe, la biologie. Et donc, avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on s'accorde sur ce point essentiel. Hors de la connaissance scientifique et de l'action technique, hors de la technoscience, il n'y a point de progrès pour la médecine, point de salut par la médecine. Or, la science a un domaine exclusif, c'est le domaine des choses. Elle ne connaît que des choses. Ces choses sont mues par des lois déterministes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de liberté. Elles n'aiment pas et elles ne haïssent pas non plus, donc elles n'ont pas d'affectivité. Et elles ne sont pas concernées par les catégories du bien et du mal, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de conscience morale, elles ne sont pas soumises à la morale. La science qui les décrit est donc déterministe, indifférente sur le plan affectif et moralement neutre. Et ceci est sans doute sans importance quand l'objet de la science est un objet inanimé. Mais quand l'objet de la science n'est plus inanimé, déjà les difficultés commencent. Déjà les difficultés commencent avec les animaux. Et elles s'aggravent quand l'objet de la science est l'homme, l'homme qui a la prétention d'être plus, bien plus qu'un objet inanimé. L'homme qui s'éprouve comme libre, qui a une affectivité et qui a une conscience morale. Or, les efforts pour faire rentrer ces catégories, j'aurais dit liberté, affectivité, morale, les efforts pour les faire rentrer dans le carcan des connaissances positives ont, au moins jusqu'à présent, échoué. La science est restée impuissante à rendre compte de la liberté, de l'affectivité, de la conscience morale, autrement qu'en les réduisant à leur contraire, le déterminisme, l'indifférence affective et la neutralité axiologique. On peut prendre l'exemple de l'amour, un bel objet pour la recherche en neurosciences. Il faut reconnaître que cette recherche, jusqu'à présent, n'a guère fait mieux que de dissoudre, à proprement parler, le fait amoureux dans un flot d'hormones, de décharges synaptiques, d'activations neuronales, toutes choses qui n'ont rien à voir avec l'amour et qui, j'ose le dire, ne nous apprennent rien sur lui, du moins rien d'essentiel, rien qui nous aide à vivre pleinement notre amour. De ces travaux scientifiques, l'amour ressort au mieux incompréhensible, au pire dénaturé, voire détruit. Ce qui rappelle le résultat des méditations de Marc Aurèle à ce sujet. En bon stoïcien appliqué à se détacher de ses désirs charnels, il figurait l'arc sexuel comme il était, entre guillemets, un frottement de ventre et l'éjaculation d'un liquide gluant accompagné d'un spasme. C'est très romantique, n'est-ce pas ? Mais il faut reconnaître qu'avec leurs PET scans et leurs IRM fonctionnels, nous autres neuroscientifiques ne font pas grand-chose de mieux. On aboutit à un résultat qui est assez proche. Et quant à la technique, sa propension à transformer tout ce qu'elle touche en chose est bien connue. Avec ses instruments, ses machines, ses sondes, la technique agit sur les choses, pas sur les êtres. Et ce faisant, elle modèle la matière. On peut même dire qu'elle la met en forme, sur un terme aristotélicien, elle l'informe sous une forme justement adaptée à la technique, c'est-à-dire inanimée sans âme. Et donc, on doit comprendre que pour agir sur l'homme par la médecine technoscientifique, je dirais désormais la médecine tout court, ça sera plus simple, il faut faire abstraction de ce qui résiste, liberté, affectivité, morale, c'est-à-dire considérer l'homme comme un objet. Et la technoscience donc, ne mène pas à la conscience du sujet. Et elle induit la régression des modes d'accomplissement de la vie humaine en les réduisant à la catégorie uniforme qu'elle peut concevoir, la catégorie d'objet. Alors la médecine est consciente de ce problème et elle prétend le contourner en promettant à l'homme, au malade en l'occurrence, puisqu'elle s'occupe du malade, quoique son champ s'étend hors du malade à proprement parler désormais. Donc elle prétend, elle promet qu'après son passage, il retrouvera son être originel. Enfin, elle va prétendre une sorte de restitution ad integrum. On peut lui faire confiance, elle fait son petit travail. Et puis après, chacun rentre chez soi sans y penser. Bon, voyons que le simple bon sens commande de mettre en question cette promesse rassurante selon laquelle l'intervention de la médecine n'a qu'un effet limité sur nous. Bien sûr, il y a les maladies chroniques qui affectent de manière très prolongée le statut du malade, ou plutôt qui plaquent le statut de malade sur celui qui en est atteint. Et ces maladies sont légion dans notre monde, où on ne meurt plus d'emblée quand on a une maladie grave, mais où les traitements permettent une rémission qui peut durer des mois, des années, des décennies, période pendant laquelle le malade reste prisonnier de la médecine. Est-ce qu'il y a un être non scientifique auquel on peut revenir une fois qu'on est passé par la moulinette de la grande découpeuse ? Est-ce qu'on peut recomposer ce qui a été bien décomposé ? Analyser, ça veut bien dire découper, c'est le terme grec. Alors, évidemment, pour un chirurgien, je suis sensible à ce terme. En cela, le chirurgien est aussi un analyste, il découpe comme le psychanalyste. Mais est-ce qu'on peut recomposer ce qui a été si bien décomposé par nos instruments une fois qu'on est passé par là ? Ou simplement, d'ailleurs, regarder sans dégoût ce qui n'est plus qu'un assemblage presque fortuit ou à tout le moins accidentel de tissus, de cellules, d'atomes ? Et comment voir là autre chose qu'une quintessence de poussière, pour reprendre la méditation d'Hamlet. Le philosophe Jean-Luc Nancy, qui vient tout juste de nous quitter, a écrit sur ce sujet un livre vraiment poignant, L'intrus. Nancy, il y a déjà bien longtemps, était atteint d'une insuffisance cardiaque progressive et il n'a dû sa survie qu'à une transplantation cardiaque. Et il a écrit ce livre pour rendre compte de cette expérience. Et il décrit les bouleversements de l'image de soi dont cette intervention sur son corps a été responsable. Il est devenu, après sa greffe, l'hôte d'un intrus, d'un étranger multiple. Ou peut-être c'est lui qui est l'intrus, l'étranger. Il est devenu étranger à lui-même. Il ne sait plus quelle est sa vie propre, cette vie qu'il s'agissait de sauver, je cite, « cette vie qui n'est dans aucun organe et qui sans eux n'est rien ». Comme si la propriété vie ne résidait pas dans le corps. Tous les repères et toutes les structures de la personnalité sont menacés. Il pose des questions terribles. Comment devient-on pour soi une représentation et un montage de fonctions? Et où disparaît alors l'évidence puissante et muette qui tenait tout ça sans histoire assemblée? Je recommande vraiment ce livre, si vous ne l'avez pas lu, parce qu'il exprime incroyablement l'aliénation que ressent l'homme sur lequel la technoscience médicale étend ses bras d'acier. Mais d'un autre côté, sans sa transplantation cardiaque, Jean-Luc Nancy n'aurait pas vécu jusqu'à 81 ans, ce qui est un âge, ma foi, assez digne, surtout qu'il a été transplanté jeune, hein. Il était dans la cinquantaine, je crois. Et après, il a écrit encore beaucoup, donc c'est quand même très beau, hein, en même temps. Donc cette histoire vraiment nous aide à énoncer un premier paradoxe de la médecine moderne. En sauvant l'être, la médecine le dénature, le rendant comme étranger à lui-même. Et de l'autre côté de la médecine, pas d'autre côté, au cœur de la médecine, il y a les soignants. Et la prégnance de l'esprit technoscientifique en médecine a sa contrepartie chez eux aussi. Cette contrepartie, c'est l'altération du rapport spontané, naturel à la personne malade. Je vais essayer de montrer pourquoi. Donc l'origine de ce problème, je redis, c'est ce qu'on appelle depuis Max Weber le désenchantement du monde, qui est suivi de près par la déshumanisation de l'homme. L'origine de la science, qu'on appelle la pulsion épistémophilique, c'est certainement l'étonnement, l'admiration, Thomas Zayn pour les Grecs. C'est parce que le monde est beau, parce que l'homme est grand, que nous sommes saisis du désir. Vous voyez que je parle quand même avec des psychanalystes, hein, je sais comment vous prendre, je suis très démagogue. On est saisi du désir de les explorer, de les aider, de les connaître intégralement, de les dévoiler. Et c'est ainsi que ce dévoilement a commencé en Grèce, il y a 2500 ans, et puis il a continué en Occident, grâce à la science, cette science qui analyse, découpe pour décrire, qui mathématise pour formaliser, et qui expérimente pour tester ses hypothèses. Et c'est cette triple action d'analyse, mathématisation, expérimentation, qui a permis les immenses succès de la science moderne, dont les succès médicaux. Mais c'est elle qui double aussi son succès d'un spectre effrayant. Analyser, mathématiser et recréer par l'expérimentation, le monde et l'homme perdent les qualités qui avaient rendu si désirable leur exploration scientifique. Le monde n'est plus beau, l'homme n'est plus grand. Réduit à une pure positivité, l'homme et le monde ne sont plus aimables. C'est l'affect qui pousse l'homme dans la science, muni de la science dans le monde, et la science nous rend un monde et un homme privés d'affect, neutres, indifférents, sans charme, désenchantés, selon le mot célèbre de Max Weber. Et en médecine, ce mouvement paradoxal est très bien visible. C'est parce que nous aimons les hommes, enfin, pour en parler, je ne suis pas sûre qu'on les aime avant, mais on veut les aimer après. Enfin, on les aime une fois qu'on s'en est occupé. Voyons, non, on ne les aime pas avant. On aime la médecine, mais une fois qu'on en a pris soin, on a cette gratification normalement extraordinaire qu'on se met à les aimer après. Je pense que l'amour arrive après le soin. Pour en parler, si vous voulez, j'ai pas mal travaillé là-dessus, c'est une question intéressante. Mais en fait, on voudrait les aimer, donc on commence à s'en occuper, puis après, on les aime normalement. Donc, on veut les aider à surmonter les maladies qui les accablent. Et pour les aider, on les connaît scientifiquement, on agit sur eux techniquement. Mais ce qui est au bout de cette connaissance et de cette action, ces tas de molécules, ces paquets de gènes, ces réseaux neuronaux, rien de tout ça ne mérite plus notre amour ni nos soins. En fait, on ne peut pas aimer un tas moléculaire. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal, en tout cas, avec les tas moléculaires, sincèrement. Mais ce à quoi nous avons affaire maintenant en médecine sont des tas moléculaires. Où, moi, je suis neurosciences, d'ailleurs, je vais aller les réseaux de neurones. Là encore, le réseau de neurones... Bon. Des tas moléculaires très perfectionnés, hein, mais des tas moléculaires quand même. Ils ont remplacé les hommes et ils ont perdu au passage les qualités qui justifiaient le soin qu'on les accordait. D'où les difficultés de la relation médicale contemporaine. D'un côté, des tas moléculaires bien incapables de susciter une quelconque sollicitude, et de l'autre, des robots réparateurs qui mettent en forme de façon mécanique ces tas moléculaires et auxquels nulle gratitude n'est due. Ni d'un côté ni de l'autre, on ne trouve plus d'hommes, des hommes au sens complet du terme, des hommes véritables, en chair et en os, c'est-à-dire plein de subjectivité, d'affectivité, de préférence, de croyance, de liberté. Ils sont capables de désirer, de choisir, de haïr, d'aimer. Ils sont très chiants, mais il se passe quelque chose, quoi. Et évidemment, dans cette situation, personne n'est content. Alors, les uns parce qu'il n'est pas agréable d'être réduit au statut de tas moléculaire, et les autres que passer sa vie en présence de tas moléculaires n'est pas très gratifiant. Bon, c'est un tableau très déprimant et exagéré, évidemment. Il est très exagéré parce qu'il dépeint une situation paroxystique qui n'est pas la nôtre, c'est celle vers laquelle je crains nous nous dirigeons, mais nous en sommes encore loin, heureusement. Et en vérité, nous sommes dans une période de transition, dans laquelle nos représentations sont encore héritées de notre bagage traditionnel, où la mentalité passée, où l'appréhension de l'être n'était pas scientifique. Car il faut souvenir que la science est née dans un contexte de dualisme qui rendait possible la coexistence, le clivage, d'une pensée des choses qui était matérialiste, complètement scientifique d'un côté, et de l'autre une conception traditionnelle gouvernée par la religion, la philosophie et le rapport en fait naturel, spontané aux autres. Ce dualisme méthodologique a évidemment son maître en Descartes, qui sépare nettement le corps, soumis aux lois de la matière et connu par la science, et l'âme, qui est à l'origine de la pensée scientifique et qui est donc la tâche aveugle de la science. Et cette âme a des prérogatives, notamment éthiques, qui n'ont rien à voir avec la science. Mais le succès même de la science des corps a résorbé ce dualisme. Et après Descartes, on a commencé, petit à petit, enfin assez rapidement d'ailleurs, à appliquer les méthodes élaborées pour régir le monde matériel aux êtres spirituels. La postérité immédiate de Descartes, tout le monde le sait, c'est Lamétrie, avec son « Homme-machine » de 1747. Alors c'est un livre assez nul, simpliste, qui déshonore la pensée du maître, mais dont les thèses frappent par leur réductionnisme même. Et depuis, les choses se sont encore accentuées. L'unité de la méthode de connaissance scientifique nous paraît évidente. Et comme la science ne peut pas être remise en question, ne serait-ce parce qu'elle est tellement efficace, c'est elle qui est vouée à prendre le dessus et à s'étendre partout en balayant les autres façons de penser, de réfléchir et bientôt de ressentir. D'où une sorte de schizophrénie. Nous continuons d'agir selon des règles héritées de l'ancienne façon de considérer les êtres, la façon morale au sens large du terme, tout en ayant vis-à-vis de ces êtres un regard qui est de plus en plus réifiant et vis-à-vis des choses, on ne fait pas de morale. Et à terme, la prévalence de ce regard pourrait dilapider notre héritage moral et nous retrouverions alors incapables de fonctionner avec sans cet héritage et avec ces nouvelles conceptions. Car une conception entièrement scientifique de l'être est incapable de fonder une éthique. C'est le sujet de la session. Ce qui est logique puisque la science ne connaît ni le bien ni le mal, mais seulement des faits sans hiérarchie de valeurs, en eux-mêmes toujours neutres moralement. Vous pouvez lire l'Homo Deus d'Harari, bon, c'est très démago, mais c'est quand même assez facile et agréable à lire, et il annonce tranquillement la mort de l'homme évincé par ses propres représentations scientifiques et ses propres techniques. Tranquillement, pas si tranquillement que ça, mais enfin... Et c'est quelque chose qui est quand même sujet d'effroi. Un deuxième paradoxe dans lequel la médecine moderne s'enferme, c'est son désir de délivrer l'homme de la souffrance. Ça fait bien le lien avec la présentation précédente, parce que la souffrance est un attribut essentiel de l'humanité. Contrairement à la douleur qui désigne des affects localisés de façon étroite, la souffrance ouvre sur la réflexivité, le langage, le sens, le questionnement, le rapport à l'autrui. Et c'est peut-être la capacité de transformer la douleur en expérience signifiante, en souffrance, qui est la marque du passage de l'animal à l'homme. L'homme est ce qui peut souffrir. Dans le monde, vous aurez à souffrir, dit l'Évangile, en consacrant la place centrale de la souffrance. Alors, non seulement est l'homme et ceux qui souffrent, mais il est ceux qui peut préférer la souffrance à l'absence de souffrance. Mais pas par masochisme, mais simplement parce qu'il n'est pas question pour lui d'accepter la souffrance, l'absence de souffrance à n'importe quel prix. La capacité d'aller au-delà du principe de plaisir, en quelque sorte. La capacité de trouver plus précieux que le plaisir ou le déplaisir est quelque chose qui fait le fait humain. La capacité d'agir au-delà de sa souffrance pour un but plus haut, en quelque sorte. Or, si la souffrance fait le sujet, l'absence de souffrance pourrait le défaire. Or, la lutte contre la souffrance constitue la mission de la médecine moderne. En effet, c'est assez récent. Hein. L'élimination de la douleur, de l'infirmité, de la maladie est quelque chose de vraiment récent, mais qui est un objectif qui a pris le dessus dans la médecine, avec l'aliénation de la douleur comme condition pour accéder au bien-être, c'est-à-dire un état où l'expérience qu'est la souffrance n'a plus sa place. C'est devenu l'alpha et l'oméga des politiques de santé. On pourrait même dire que si la lutte contre la souffrance est le but premier de la médecine moderne, la médecine parfaitement aboutie serait celle qui délivrerait l'homme de la souffrance, voire le rendrait incapable de souffrir. Et selon ce qui précède, il faudrait admettre que cette médecine parfaite le transformerait en bête. Alors vous avez vu que la réification était dans la considération scientifique, et maintenant, dans la technique de la souffrance, on se rapproche moins de l'objet que de l'animal, et on pourrait priver l'homme d'une partie de son humanité, ce qui fait la dignité éminente de l'humanité sur toute autre forme de vie, la capacité de créer du sens à partir des aléas de l'existence. Alors, tout ça est choquant parce que vous avez raison d'être choqué. Bien sûr, il est simplificateur de ranger toutes les souffrances dans les mêmes bannières. Tous les types de souffrances n'ont pas la même capacité à créer du sens. Évidemment qu'il y a des blessures morales qui détruisent la conscience au lieu de l'exaucer, mais quand même, bien sûr que la médecine doit lutter contre la douleur, je ne doute absolument pas ça, et on ne peut pas philosopher là-dessus, on doit se taire devant les grandes douleurs. Et en plus, on est loin d'une telle médecine qui rendrait l'homme incapable de souffrir. Mais enfin, même s'il y a du chemin à parcourir, vous notez le point vers la médecine parfaite, en quelque sorte, le point de renversement dialectique qui mène vers le but. Et ce qui compte bien souvent, c'est la représentation, le but vers lequel on tend, plutôt que la réalité de ce qu'on fait, vous le savez bien. Ainsi, la médecine moderne achoppe encore contre bien des souffrances, mais qui ne voit que cet achoppement parce qu'il est considéré comme conjoncturel et non essentiel à ses jours comptés. Et je pense que si la douleur est la priorité de la médecine, peut-être sa priorité, son unique priorité, la conclusion est que tous les moyens pourraient être employés contre la lutte contre la douleur. Et il n'y a qu'un saut vers cette conclusion. Et je ne pense pas que tous les moyens, comme la légalisation de l'euthanasie, on vient d'en parler, sont compatibles avec l'éminente dignité de l'homme telle qu'elle nous semble devoir être préservée. La question n'est pas de se demander si la médecine doit lutter contre la douleur ou pas, la cause étant entendue, elle le doit, mais est-ce qu'elle le doit par tous les moyens, à tous les prix, à tout prix ? Un troisième paradoxe, je voudrais là parler longuement d'Ivan Illich et ce qu'on peut appeler avec lui sa contre-productivité paradoxale. Qu'il a longuement développé dans ce magnifique livre qui est La Némésis médicale, qui est peut-être un peu daté, mais qui est quand même un grand livre et que nous devrions tous lire. Il y a vraiment beaucoup à apprendre d'Illich, qui est un grand maître pour nous. Je cite « L'entreprise médicale menace la santé. La colonisation médicale de la vie quotidienne aliène les moyens de soins. Le monopole professionnel sur le savoir scientifique empêche son partage. » Voilà les premières phrases de ce brûlot qui est la Némésis médicale. Et vraiment, il faut relire ce livre pour bien comprendre cette thèse d'Illich, qui est que la médecine, loin d'améliorer le niveau global de la santé, le dégrade. Alors on dit les professionnels de santé, c'est vraiment un très mauvais terme, on est professionnel du soin. Mais quant à la santé, c'est quelque chose qui est propre à la personne. Et donc Illich parle de ce qu'il appelle la iatrogénèse, la création de la maladie en quelque sorte, et il y voit trois mécanismes, la iatrogénèse clinique, la iatrogénèse sociale et la iatrogénèse structurelle. Alors la iatrogénèse clinique, c'est assez simple, c'est les effets secondaires et les accidents qui menacent les malades soumis à l'action d'une médecine dangereuse. Alors ça, c'est pas un scoop. Plus les médicaments et les techniques sont puissants, plus ils exposent à des effets secondaires. Soit des effets secondaires individuels, évidemment, on pense aux accidents chirurgicaux, aux infections acquises à l'hôpital, etc., aux dangers des médicaments, soit collectifs. Par exemple, l'emploi excessif des antibiotiques entraîne l'apparition de résistances bactériennes et donc d'infections de plus en plus graves. Alors aujourd'hui, on est presque 50 ans après la publication de la Némésis médicale, c'est 75 en France, et on pourrait espérer que les choses se sont améliorées, mais il n'en est rien, tout simplement parce qu'on a repoussé les limites de la thérapeutique, et ce faisant, on a pris en charge des patients de plus en plus fragiles, et leurs problèmes et complications ont absorbé, en quelque sorte, les progrès qu'on avait réalisés dans la prise en charge des maladies faciles. Un seul chiffre, assez éloquent, je trouve, il semble que 30% des décès dans la maladie cancéreuse viennent de plus ou moins de la thérapeutique. Et ça ne veut pas dire qu'on soigne mal le cancer, c'est simplement qu'on pousse tellement la thérapeutique qu'il y a toujours la chimiothérapie de trop, l'intervention de... 30% sont liés à la thérapeutique. C'est des gens qui seraient morts de toute façon, hein, mais ils meurent quand même de la thérapeutique, et ce n'est pas la même chose que s'ils mouraient de leur maladie seulement. Encore une fois, on peut dire que le résultat est même, mais en fait, non. C'est le spectre de l'acharnement thérapeutique. On dit maintenant obstination déraisonnable, ce qui est un bien meilleur mot, qui plane sur ce chapitre. Sans compter en fait l'angoisse qui résulte d'une médicalisation de plus en plus poussée d'états non ressentis comme pathologiques. Et ici, il faut pointer les effets délétères du dépistage, qui transforme dépistage des maladies à un stade précoce. Par exemple, vous avez sans doute entendu parler des grandes questions qui se posent sur le dépistage par radiographie du cancer du sein, qui pose en fait d'énormes problèmes et qui fait surtout sur la pression des radiologues. Au pire encore, le dépistage des facteurs de risque. C'est des gens qui ne sont même pas malades du tout et qu'on va transformer en malades par ce dépistage, ces check-up. Et ensuite, on va leur donner le statut de malade. Ils auront donc des interventions médicales, des traitements, des limitations. Et en fait, en clair, on peut dire avec Illich que l'institution médicale transforme en malade des gens qui se ressentent comme bien portants, avec toutes les conséquences physiques et psychiques qui accompagnent ce changement de statut. Alors, deuxième partie, c'est la diatrogenèse sociale. Et là, c'est l'effet de la médecine sur la société. En fait, d'après lui, la médecine induit une disharmonie entre l'individu et son milieu social et physique, ce qui induit une perte d'autonomie. Vous savez qu'Illich est un penseur de l'autonomie, et c'est la perte d'autonomie, le gouvernement des experts, qui est un reproche immense. Il critique ce corps de professionnels qui, en se réservant le soin dans toutes ses dimensions, entraîne l'aliénation des hommes à leur propre santé. Au lieu de développer dans la population les moyens de se soigner soi-même, eh ben on les met dans la dépendance du corps médical. D'ailleurs, il suffit de lire sur un médicament la notice. En général, il y a juste marqué « à n'employer que sous contrôle médical ». Pour que ce soit un anticancéreux de dernière génération extrêmement toxique ou un cachet d'aspirine. Et alors, avec ça, évidemment, les gens sont bien avancés, quoi. Donc, le résultat, c'est un véritable asservissement des gens à l'institution. Vous savez qu'Illich a aussi travaillé sur l'institution scolaire. C'est The Schooling Society, qui est un meilleur titre que Pour une société sans école. Et donc, dans l'institution scolaire comme l'institution médicale, il voit à l'œuvre ces gouvernements des experts qui vident les gens de leur capacité à agir par eux-mêmes. Et d'ailleurs, il dit « De même que la principale production de l'école est l'établissement d'une hiérarchie de recalés, de même, la médecine moderne vise à ce que l'homme domestiqué entre en stabulation permanente pour se faire gérer dans une suite de loges spécialisées. » Alors, tout ça, ces deux iatrogénèses, débouchent sur la iatrogénèse structurelle, c'est-à-dire que la médecine interagit avec tous les domaines de la culture pour produire un homme nouveau, adapté à son emprise totalitaire. C'est quand même vraiment très très grave. Ce qui induit une régression structurelle du niveau de santé, mais aussi dans le domaine qui n'était pas vraiment médicaux, par exemple l'éducation, le travail, la famille. Dans une société traditionnelle, les embardés de l'existence humaine faisaient l'objet d'une mise en forme qui leur donnait du sens en même temps qu'elle donnait les moyens à l'individu pour faire des comportements, de se débrouiller en quelque sorte. Eh bien, dans notre société, c'est la médecine qui a son mot à dire dans tous les comportements, quels qu'ils soient. On assiste à une médicalisation de la vie humaine. Tout va être pris en charge par la médecine. Alors, chaque problème aura sa solution médicamenteuse. Hein. La Ritaline pour les enfants mal élevés, le Prozac pour la dépression des employés surmenés, le Viagra, pour ce que vous savez, quoi. La médicalisation vide les épreuves existentielles de leur sens et de leur spiritualité, de leur signification profonde. Et l'homme qui est devenu passif face à sa santé, il le devient maintenant face aux grandes étapes de la vie. Ce qui fait perdre sa sublime liberté. Illich est un penseur de la liberté qui est le plus sublime de notre condition. Alors voilà, le tableau est quand même sombre. des paradoxes de la médecine moderne, de quelques paradoxes de la médecine moderne, il y en a certainement d'autres, je me suis consacrée à cela. Donc, vous voyez, une médecine qui ne soigne pas toujours bien l'homme, ou plutôt qui ne soit pas vraiment l'homme, l'homme réel, pour employer un vocabulaire marxien, elle en soigne sa partie scientifisable, son reflet dans l'ordre de la science. Et elle semble vouée en manquer l'essentiel, ce qui fait qu'il est un homme et non une bête ou une chose. Et peut-être même qu'elle pousse à la régression des modalités d'être de l'homme en le cantonnant dans une enfance perpétuelle de dépendance et d'assistanat. Et pourtant, les gens demandent toujours plus de science, plus de technique, et aussi plus d'humanisme, alors au sens de gentillesse, sollicitude, empathie. Il veut qu'on les opère et qu'on leur tienne la main en même temps. Sans voir, en quelque sorte, l'essentielle contradiction entre ces deux façons de pratiquer la médecine. Alors bien sûr, ils sont déçus. Leur insatisfaction face à une médecine pourtant sans cesse plus efficace croît et se démolit. Et pour nous professionnels, cette insatisfaction paraît très injuste, en plus d'être puérile d'ailleurs, si je peux me permettre. L'exigence des patients et de la famille paraît n'avoir plus de bornes. C'est tout de suite. J'y ai droit. Ou est-il normal en 2021 ? Récemment, la famille d'une patiente de 79 ans qui venait de décéder d'une tumeur cérébrale maligne, m'a dit « Tout de même, 79 ans, c'est jeune pour mourir. » J'avoue que j'étais scotchée. Alors, quelle solution pour sortir de cette impasse ? Y a-t-il une solution ? Faut-il même chercher une solution ? Alors, j'insiste d'abord sur le fait que solution, Jacques Ellul, un autre grand penseur de la technique, français en plus, l'a bien dit, solution, c'est un terme technique. Quand vous parlez de solution, vous êtes dans la technique. Vous êtes déjà dans la technique. Alors, effectivement, la science propose une solution, c'est la croissance de la science et les progrès dans toutes les directions qui ont été obscures jusqu'à présent. Ce serait d'approfondir la connaissance scientifique de ces prérogatives humaines que sont la liberté, l'affectivité, la moralité. En quelque sorte, il faudrait bâtir une science de la liberté, de l'affectivité et de la moralité. Mais prenons garde que cette dite solution pourrait être pire que le mal, peut-être bien pire, car sous couvert de nous éclairer scientifiquement sur ce que sont liberté, effectivité, moralité, elle pourrait faire effectivement disparaître ces prédicats de l'homme tels que nous les expérimentons quotidiennement, les rangeant avec dédain dans la catégorie des illusions archaïques, qui est une catégorie que la science adore. Nous n'aurions alors rien gagné du tout. Au contraire, nos représentations intimes de nous-mêmes seraient encore un peu plus disqualifiées. Notre intuition de nous-mêmes serait mise à mal, avec comme résultat que la relation entre l'homme et le monde serait encore un peu plus rompue et privée de sens. On aboutirait alors soit à un objectivisme absolu, soit à un subjectivisme radical. Le monde n'a aucun rapport avec la vie intime du sujet, ou bien il est inconnaissable de toute façon. Et la médecine ne soignerait toujours pas l'homme tel qu'il est. Elle tenterait de le contraindre encore un peu plus à être autre qu'il ne s'éprouve, ou elle l'abandonnerait à sa subjectivité incommunicable. On pourrait craindre aussi qu'elle utilise cette connaissance pour le contraindre encore un peu plus à être ce qu'il devrait être, ce qu'elle croit qu'il devrait être pour son bien, ça va sans dire. Alors devant ces difficultés, le plus sage est peut-être de laisser la médecine telle qu'elle est, avec ses imperfections, en acceptant qu'elle combine une appréhension scientifique, donc partiellement fausse, de l'homme, et des comportements qu'on pourrait dire non scientifiques. Il faut aussi, je crois, qu'elle renonce à s'étendre partout, vraiment renoncer. Le pire dans l'analyse d'Illich, c'est bien la iatrogénèse structurelle. Même pour nous, professionnels de la médecine, il faut accepter qu'il y ait autre chose que la médecine. Il faut vraiment se garder de la médicalisation à outrance de la vie pour lui laisser sa naïveté originelle, sa spontanéité, son indépendance. J'ai envie de dire son authenticité, en fait. Se garder des fantasmes d'unité, qui sont des fantasmes de totalité, pour ne pas dire de totalitarisme. Et je crois vraiment qu'il faut laisser les gens vivre un peu sans nous. Que la médecine soit une parenthèse. Et c'est en ça, d'ailleurs, que la chirurgie a bien sa place, parce que dans la chirurgie est à l'évidence une parenthèse, avec l'anesthésie qui est une parenthèse. Et normalement, le malade se réveille quand même après notre passage. Enfin, normalement, le plus souvent. Et puis, il y a aussi, il faut sans doute renoncer au diktat de l'hygiénisme moderne. Alors, évidemment, l'épidémie dans laquelle on est encore englué nous en donne un bon exemple. Et vous voyez en moi l'écœurement qu'a suscité et que suscite encore la gestion de la crise du Covid-19. Vraiment, je me désolidarise absolument de tous ces experts qui nous explique comment nous devons vivre et que pour vivre, il faut cesser de vivre, en gros. Depuis maintenant 2 ans, on nous assène, on nous assomme avec l'apologie de la vie confinée, la vie rabougrie, la vie nue. C'est quand même assez humiliant, misérable, insupportable, et puis ça ne me semble pas prêt de finir. Et une autre suggestion, je crois que dans nos interventions professionnelles, il ne faut pas négliger la dimension du soin individuel fondé sur la relation, la rencontre. Parce que cette rencontre-là échappe forcément à la mise en boîte généralisante qui est le fait de la prévention scientifique. La rencontre soignante nous sauve, malgré nous, de nos tendances réifiantes de la médecine technoscientifique. Elle est particulière, donc elle évite les généralisations et les lieux communs, et elle est incarnée. Je tiens beaucoup à ce terme de l'incarnation. En tant que chirurgien, la chair et mettre les mains dedans dans cette incarnation est quelque chose que j'apprécie énormément. Il faut que ça saigne. Mais c'est bon, le sang, d'un beau rouge. Elle est incarnée, donc elle s'oppose à l'aridité de la pensée abstraite, si vous voulez. Elle nous donne une chance de fréquenter autre chose qu'un tas moléculaire. Cette autre chose, avec toute sa richesse et sa complexité, que la langue commune appelle encore un homme. Alors, je pense que peut-être il reste encore un espoir de rencontre et non d'opposition systématique dans la médecine moderne. Évidemment, un colloque comme celui qui nous rassemble le fait espérer. Il s'inscrit sans doute en faux contre l'impression de désastre provoqué par mon propos. Donc, il faut d'abord que je vous présente mes excuses pour vous avoir déprimé. Si j'ai réussi à vous déprimer, vous allez être quand même assez blindé contre cette maladie-là, au moins. Et tous mes remerciements pour m'avoir écouté.